Europe 1, il est 7h.
Si on avait eu le système universel tel que le président de la République Emmanuel Macron veut nous proposer, eh bien aujourd'hui, les retraités auraient perdu peut-être 10, 15, 20% de pouvoir d'achat.
Les syndicats déjà vont debout contre l'annonce d'Emmanuel Macron qui veut relancer les négociations sur la réforme des retraites. On va y revenir aussi avec Nicolas Barré. Le chef de l'État qui donne une interview à la presse locale, il prévient que la rentrée sera difficile pour le secteur aéronautique, notamment plan de restructuration chez Airbus et chez Air France. Les étudiants qui rêvent d'y travailler déchantent.
On se pose tous la question de est-ce qu'on trouvera du travail dans ce secteur-là. Mais pour nous, ingénieurs en devenir, on y voit aussi une opportunité de repenser complètement l'aviation.
Ne manquez pas l'incroyable enquête qui a permis de démanteler un réseau de téléphonie cryptée utilisé par les criminels du monde entier. Et puis dans ce journal, les vacances scolaires, c'est ce soir. Les aires de repos attendent beaucoup de monde, mais il faudra respecter les gestes barrières.
On a adapté nos aires pour accueillir des clients. On ne sait pas vraiment l'affluence qu'il y aura. En tout cas, nous, on s'est dimensionné pour faire face à une forte affluence.
Juste après ce journal, jour de départ en vacances, donc comment gérer le mal des transports chez les enfants? Ça, c'est votre rendez-vous santé avec le docteur Jimmy Mohamed. 7h15, l'innovation d'Anissé Mbida et l'effet Matrix. Vos photos à 360 degrés. Voilà qui va changer aussi les souvenirs de vacances. Et puis 7h25, l'édito sport de Virginie Fulpin avec le calvaire d'Antoine Griezmann au Barça. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. Il est presque 7h02.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani.
Emmanuel Macron est donc à la une de la plupart de vos quotidiens régionaux ce matin. Midi Libre, Courrier Picard, Sud-Ouest ou encore le Télégramme, mais aussi le Parisien aujourd'hui en France. Interview fleuve pour le président avant le remaniement. Que faut-il en retenir, Jean-Rémy Baudeau?
La rentrée sera difficile. Dans les colonnes de la presse régionale, Emmanuel Macron se fait direct sur les effets de la crise. Il y a des plans sociaux et il y en aura. Et le président d'esquisser ses prochains grands chantiers. Le Ségur de la santé, le grand âge ou la jeunesse. Concernant sa promesse de se réinventer, le chef de l'État affirme « Le cap sur lequel je me suis engagé en 2017 reste vrai ». Mais désormais, Emmanuel Macron plaide pour, je cite, « une reconstruction économique, sociale, environnementale et culturelle ». Emmanuel Macron, qui promet de ne pas augmenter les impôts, de travailler à une taxe carbone aux frontières de l'Europe et surtout, il relance la question de la retraite. La réforme est-elle à jeter? Non, ce serait une erreur. Il promet néanmoins de nouvelles discussions et de transformer le projet qui avait fait tant polémique. Enfin, à la veille d'un remaniement qui semble imminent, le président brosse le portrait robot de son futur gouvernement. Relance de l'économie, protection sociale, ordre républicain et souveraineté européenne. Sans préciser formellement s'il reconduit Édouard Philippe, Emmanuel Macron promet ce matin de dessiner un nouveau chemin.
Jean-Rémy Baudeau le disait, le président veut relancer la réforme des retraites et laisse d'ailleurs entendre qu'il est favorable à un allongement de la durée de cotisation.
Il souhaite que les négociations reprennent avec les partenaires sociaux dès cet été. Le président de la CFE-CGC, François Omeril, ne comprend même pas que la réforme revienne sur la table.
La raison pour laquelle on ressort ce sujet, moi, reste quand même assez énigmatique. Parce qu'on a eu la démonstration, une fois de plus, dans cette crise économique sans précédent, que le système français est le plus performant de tous. Si on avait eu le système universel tel que le président de la République Emmanuel Macron veut nous le proposer, eh bien aujourd'hui, les retraités auraient perdu peut-être 10, 15, 20% de pouvoir d'achat. Donc pourquoi ressortir ce sujet? Parce qu'il ne peut pas y avoir de bonnes raisons sociales. Tout le monde est contre, désormais. Il ne peut pas y avoir de bonnes raisons économiques. Nous l'avons maintes fois démontré. C'est en vérité dire qu'on n'abandonne pas la volonté de diminuer le niveau des pensions. C'est une façon de réemmener l'ensemble de la population sur le terrain de la discorde.
Le président de la CFE-CGC, joint par Romain Hoquet.
Emmanuel Macron tient à sa réforme des retraites et veut la remettre sur le tapis. C'est votre éclairage éco ce matin, Nicolas Barré.
Oui, il veut la remettre sur le tapis pour une raison simple. Il dit qu'elle est faite pour tous ceux qui ont eu des carrières hachées, les femmes notamment, ou qui occupent des emplois précaires. Bref, tous ceux qu'on a appelés les deuxièmes lignes pendant le confinement, les livreurs, les caissières, tous ces métiers de service qui ont fait tenir le pays. Cette France-là est perdante dans le système actuel, dit le président de la République, et c'est pourquoi il veut relancer dès cet été cette grande concertation avec les partenaires sociaux sur la réforme.
Des partenaires sociaux qui, on l'a entendu, ne sont pas très chauds.
Exactement, c'est moins qu'on puisse dire. Leur sujet, ce sont plutôt les plans sociaux qui arrivent. La rentrée sera très dure, d'ailleurs, dit Emmanuel Macron. Il n'empêche, il tient à la poursuite de cette réforme. Il dit qu'il est ouvert à toute discussion, y compris sur la question sensible de l'âge pivot. On comprend qu'il veut que cette réforme soit vraiment gravée dans le marbre avant la présidentielle de 2022, quitte à ce qu'elle soit sensiblement transformée par rapport au projet initial. Ouverture également sur l'assurance chômage, puisqu'il renonce à allonger de 4 à 6 mois la durée de cotisation pour avoir des droits. Avec ou sans Édouard Philippe, les réformes continueront.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h d'Europe 1.
Avec ou sans Édouard Philippe, c'est toute la question. Emmanuel Macron salue une relation de confiance unique avec son Premier ministre. Les journalistes lui ont demandé si c'était de l'histoire ancienne. Ils affirment que le président a répondu au contraire, mais cette expression ne figure pas dans la version publiée par la presse ce matin.
Sur le plan économique, Emmanuel Macron, on l'a dit, s'attend à une rentrée difficile et à des plans sociaux. Air France va détailler le sien aujourd'hui. 7500 postes supprimés d'ici à la fin 2022.
Et chez Airbus, ce sont 5000 postes qui doivent disparaître. Tout le secteur aéronautique est donc frappé de plein fouet. Les perspectives d'avenir s'envolent pour de nombreux étudiants, comme celui qu'a rencontré Élise Dangean.
Depuis que je suis tout petit, je cherche à comprendre comment c'est possible de faire voler quelque chose de plusieurs dizaines de tonnes.
Maintenant qu'il a compris, Quentin n'a plus qu'un objectif, participer au développement de nouveaux avions. Pour y parvenir, il a intégré l'an dernier une école d'ingénieurs spécialisée dans l'aéronautique. Sauf qu'avec la crise, les stages et les offres d'emploi ont quasiment disparu et le rêve de gosse a laissé place aux interrogations.
On se pose tous la question de est-ce qu'on trouvera du travail dans ce secteur-là, mais pour nous, ingénieurs en devenir, nous on y voit aussi une opportunité de repenser complètement l'aviation.
Et tout le défi est là, selon Olivier Lèbre, directeur de l'école d'ingénieurs ISAE Supaéro.
Cette crise, finalement, elle accélère un certain nombre de transitions technologiques qui étaient déjà en gestation, ce qu'on appelle l'avion vert ou donc l'aviation des transports décarbonés qui, pour nos jeunes ingénieurs, va leur offrir des perspectives assez extraordinaires.
En témoigne le plan de soutien à l'aéronautique avec un gros coup de pouce à l'innovation. Le gouvernement met plus d'1 milliard d'euros sur la table pour les 3 prochaines années. Objectif, devenir le leader de l'avion propre.
Et puis encore un mot de l'interview d'Emmanuel Macron. Sa priorité pour les 2 dernières années de son quinquennat, c'est, dit-il, le Ségur de la santé. D'ailleurs, la réunion de clôture prévue aujourd'hui est finalement repoussée, faute d'accord avec les syndicats.
La réforme des retraites, l'assurance chômage, les plans sociaux, il y en a et il y en aura. Cette question du Ségur de la santé, autant de sujets pour Yves Verrier, mon invité à 7h40, le secrétaire général de Force ouvrière.
Europe 1, il est 7h07.
C'est avec un peu plus de 200 voix d'avance que Martine Aubry a été réélue dimanche pour un 4e mandat à la mairie de Lille. Une victoire de justesse que l'opposition a bien l'intention de contester.
Et oui, la candidate en marche, Violette Spielboot, arrivée 3e, dépose aujourd'hui un recours devant le tribunal administratif. Elle pointe notamment l'utilisation de moyens municipaux pendant la campagne. Lionel Gougelot.
Toute la journée d'hier, Violette Spielboot et son équipe ont planché sur les arguments qui démontrent, selon eux, que le scrutin a été faussé. Ils accusent notamment Martine Aubry d'avoir profité d'être en première ligne dans la crise du coronavirus pour vanter son action municipale, mais ils pointent aussi les pressions qui auraient été exercées sur des commerçants pour monter en urgence un comité de soutien ou encore cet appel insistant à voter Aubry dans un mail envoyé aux associations de quartier par la présidente d'une structure proche de la mairie. En fait, l'ancienne directrice de cabinet de Martine Aubry ne se fait pas trop d'illusions sur la possibilité de faire annuler l'élection. Les quelques irrégularités qu'elle dit avoir observées ici ou là dans certains bureaux de vote ne devraient pas correspondre aux 227 voix qui ont permis la victoire de Martine Aubry. Elle veut surtout, à travers ce recours, dénoncer ce qu'elle considère comme un système municipal mis au service de la réélection de la maire sortante. Aucune réaction pour l'instant dans l'entourage de Martine Aubry. Et chez les Verts, coiffés sur le poteau, au bout d'une soirée à suspense, on épluche les listes d'émargement pour répertorier d'éventuelles bizarreries dans le scrutin. Stéphane Bally dira aujourd'hui s'il engage lui aussi un recours. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
De Lille à Marseille à présent. Marseille, la succession de Jean-Claude Gaudin se complique.
Et oui, la candidate LR Martine Vassal a cédé sa place au député Guy Tessier, mais un autre élu LR refuse de le soutenir en évoquant des ententes avec le Rassemblement National. Lionel Royer-Perrault annonce donc à son tour sa candidature. Le président des Républicains, Christian Jacob, en appelle au Rassemblement.
Christian Jacob, qui sera d'ailleurs l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15 ce matin sur Europe 1.
Europe 1.
Un coup de pied dans la fourmilière du crime organisé. Une grande enquête menée par la France et les Pays-Bas vient de permettre de démanteler un réseau mondial de communication cryptée. On vous raconte ça dans la suite du journal.
Europe 1, il est 7h11, la suite du journal. Hélène Zélani, Mathieu Béliard.
Nom de code, EncroChat. Ce réseau mondial de communication cryptée, ultra sophistiqué et utilisé par des criminels, vient d'être démantelé.
Et de multiples arrestations ont été opérées dans plusieurs pays européens à l'issue d'une enquête hors normes menée conjointement par les autorités françaises et néerlandaises. C'est ce que vous nous racontez ce matin, Salomé Legrand. D'abord, le matériel utilisé était digne des meilleurs films d'espionnage.
Absolument, des téléphones vendus 1000 euros l'unité, sans caméra, ni micro, ni GPS, dotés d'un double système d'exploitation, l'un classique, l'autre crypté et masqué, avec des fonctions d'effacement rapide des messages en cas d'arrestation, par exemple, effacement possible à distance ou même autodestruction automatique au bout d'un certain délai. Bref, de quoi assurer une parfaite discrétion aux délinquants en tout genre et notamment aux dirigeants des réseaux.
Discrétion, oui, sauf que les enquêteurs ont réussi à infiltrer le système.
Et comme les criminels ne se doutaient de rien, les enquêteurs ont carrément eu l'impression d'être à leur table, dit cite l'un d'entre eux. Ils ont même été choqués parfois de voir avec quelle facilité les activités criminelles étaient planifiées. Le général Jean-Philippe Lecouf est directeur adjoint de la police judiciaire de la gendarmerie nationale.
Ce que vous pouvez voir dans certains films, on a des SMS, mais aussi des photos qui sont transmises, où et quand un certain nombre de choses vont se passer, qui va être l'objet éventuellement d'une séquestration, d'une tentative d'influence, quel conteneur va transporter des stupéfiants, etc. Un petit peu comme si on était dans une énorme réunion de criminels qui se parlent entre eux et où on est un petit peu invisible au milieu.
Mais le 13 juin dernier, le réseau s'est rendu compte qu'il était infiltré. Ses responsables ont envoyé un message d'alerte à tous les utilisateurs en leur conseillant de se débarrasser illico de leur téléphone. Quelques 50 000 appareils étaient en circulation, quasi tous utilisés par des gros bonnets de la délinquance et du crime organisé. Plus de 100 millions de messages ont été interceptés sur toute la durée de l'opération. Ils vont nourrir des centaines de procédures judiciaires en France, bien sûr, mais aussi dans le monde entier.
Salomé Legrand. Sachez aussi que 4 policiers de Seine-Saint-Denis ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. Leur compagnie sera dissoute. Ils sont notamment soupçonnés d'avoir falsifié des procès-verbaux, mais aussi de violence ou de vol.
C'est le dernier jour de classe avant les grandes vacances. Des congés dans l'Hexagone pour beaucoup d'entre vous, à cause de la crise du Covid, bien sûr.
Et si vous prenez la route, vous vous arrêterez sans doute dans des stations-service ou sur des aires de repos. Mais attention, les gestes barrières restent obligatoires. Frédéric Michel est allé prendre la température sur l'A8 dans le Var, du côté de Brignoles.
Les parkings, à l'ombre des pins, sont encore vides. Le calme avant le grand rush. L'aire de Cambarette est l'une des plus importantes stations-service et aires de repos entre Aix-en-Provence et Fréjus. Clément Kerr inspecte une dernière fois les installations. C'est le chef de district de cette portion de la 8 pour Vinci Autoroute.
On a adapté nos aires pour accueillir les clients et puis on a adapté nos services. On les a un peu diminués pour s'adapter au contexte. On a gardé les services qui étaient les plus prisés, donc les tables de pique-nique, les cabines pour les bébés.
Pas d'atelier massage donc cette année ou d'animation en groupe. Et pour éviter les bouchons en table de pique-nique, le personnel a été renforcé et se chargera du placement.
On a évidemment les 1 mètre à respecter, du gel hydroalcoolique et puis surtout on a nos équipiers qui sont là pour accueillir les clients. Il y a aussi des couloirs de circulation dans les installations commerciales. On ne sait pas vraiment l'affluence qu'il y aura. On sort de quand même d'une période de confinement qui était longue. Donc en tout cas, nous, on s'est dimensionné pour faire face à une forte affluence.
Et le message est simple, hein, sur la route ou sur les aires de repos, on pense aux autres en roulant prudemment et en respectant les gestes barrières.
Frédéric Michel, à Brignoles, dans le Var. La circulation devrait en tout cas être chargée en ce premier week-end de vacances scolaires. Bison futé hisse le drapeau rouge dès aujourd'hui en région parisienne dans le sens des départs. Ce sera orange partout ailleurs.
Et pour ceux qui n'ont pas la chance de partir et qui sont dans la difficulté, de la musique classique. C'était hier à l'Axou, du côté de Nancy.
Oui, des musiciens de l'Opéra de Lorraine ont joué pour les bénéficiaires des Restos du Cœur. Moment de grâce, suivi par Arthur M. Bachy.
La musique, en vrai, à nouveau le plaisir de s'accorder, de se retrouver, les deux violons, l'alto, le violoncelle. Quatuor du compositeur russe Alexandre Borodine, ce sont des musiciens de l'Opéra de Lorraine, mais pas à l'Opéra. Ici, les Restos du Cœur où Christelle est bénévole.
Ça donne des frissons, ça passe dans le corps, quoi.
Jauge limitée à 30 personnes, dont Alain bénéficiaire des Restos.
Je trouve remarquable que des personnes de cette qualité se déplace dans des endroits comme ici. Il y a 2 ans, il y avait Aïda qui est passée. C'était pas dans mes, et c'est toujours pas dans mes cordes. Donc quand on en bénéficie de manière gracieuse, ben, c'est très bien.
Puis je pense qu'on en a besoin tous aujourd'hui.
Fédoua Beyoud de l'Opéra de Lorraine.
Enfin, voilà, on sort d'une période assez lourde et en plus eux ont des priorités qui sont aussi essentielles, hein, tout simplement. Et là, ça nous fait du bien tous.
Y compris aux musiciens eux-mêmes, commentaire de l'altiste du Quatuor. C'est quand même plus chouette que les concerts par Skype. Nancy, Arthur M. Bachet.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que la musique adoucit les mœurs.
Merci beaucoup Hélène Zélani, et on en a bien besoin. Merci à Arthur Mbaché aussi pour ces quelques notes en fin du journal de 7h. Il est 7h16. Très bon réveil à tous.
Votre rendez-vous santé à présent avec le médecin d'Europe 1, Jimmy Mohamed.
Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Et même dans notre rendez-vous santé, il y a ce petit parfum de vacances. Oui, les vacances scolaires qui débutent ce soir. Certains vont prendre la voiture, nous le disions, ou le train pour se rendre en vacances. Est-ce que vous avez des conseils, Jimmy, pour les enfants qui souffrent du mal des transports ?
Oui, alors tout d'abord, il faut rappeler que le mal de transport, c'est lié au fait que notre oreille interne, qui est le centre de l'équilibre, va très vite percevoir tous les mouvements d'accélération, de décélération. Sauf que vos yeux et votre corps va renvoyer des informations de mouvement, mais de façon moins rapide et moins précise. Ce qui va entraîner une discordance de messages, et vous allez donc avoir ces nausées, ces vomissements qui vont plus toucher les enfants qu'entre 2 et 12 ans. Ça s'améliore à l'âge, chez les adolescents, et puis à l'âge adulte, c'est plutôt les femmes qui sont touchées. Alors, avant de partir, attention à ce que vous mangez. Il faut privilégier un repas plutôt léger, éviter de partir à jeun et surtout de prendre un repas trop copieux. Si jamais vous prenez la voiture, privilégiez la place à côté du conducteur ou à l'arrière, au milieu, en gardant la tête bien droite et en regardant loin devant vous. Si jamais les enfants prennent le train, il faut essayer d'être dans le sens de la marche. Et pour ceux qui vont vraiment prendre l'avion, privilégiez les places au centre de l'appareil. Et puis avec tout ça, normalement, ça devrait aller. Mais surtout, évitez de lire ou de prendre une activité qui va faire que vous allez baisser la tête, et donc éviter les tablettes, parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir des nausées, des vomissements.
Et du côté des médicaments, est-ce qu'il existe des solutions efficaces, Jimmy ?
Oui, alors le rhizome de gingembre, la phytothérapie, ça marche très bien. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on va faire avaler du gingembre à des enfants ? Vous avez raison, il existe sous forme de sirop à la pharmacie. Les extraits de menthe poivrée peuvent aider. Certaines familles d'antihistaminiques sur prescription médicale sont possibles. Et puis enfin, chez les adultes, même si on a dit qu'on parlait des enfants, des patchs qu'on met derrière l'oreille de scopolamine permettent d'éviter ce mal de transport. Et puis si jamais tout ça ne marche pas, vous prenez un bon sac anti-vomi, et puis vous prenez du change, parce que quand on vomit dans la voiture, c'est une catastrophe.
Je sens que Jimmy Mohamed va prendre la route avec les enfants aussi. À un moment un autre, il va avoir droit à des vacances aussi. Merci Jimmy, le médecin d'Europe 1, qu'on retrouve tous les jours dans son rendez-vous avec Mélanie Gomez, de 15h à 16h.
À 7h19, on passe à l'innovation du jour sur Europe avec Anissa Mbida.
Bonjour Anissa.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On est dans la thématique, comme ça, à la veille des grands départs de vacances, vous avez trouvé une application qui pourrait simplifier le montage de nos vidéos souvenirs.
Oui, imaginez, vous êtes à plusieurs, chacun avec son téléphone portable, et vous filmez une scène, je sais pas moi, un mariage, une fête ou un anniversaire. Le problème, c'est quand il y a beaucoup de monde, il y a toujours quelqu'un qui peut se lever devant et passer devant et gâcher la vidéo. Eh bien, ce que fait ce programme, c'est qu'il récupère les vidéos de tous ceux qui filment, et puis il va les recombiner et reconstituer la scène en 3D pour qu'on puisse ensuite la visualiser sous n'importe quel angle. En fait, ça marche un peu comme l'effet 3D de Matrix, je ne sais pas si vous voyez. On va pouvoir tourner tout autour de celui qui souffle les bougies, par exemple, et donc ne plus être masqué par celui qui est passé devant.
On se rappelle tous de cette scène, quand même, qui est Keanu Reeves, qui se penche, on ne sait pas comment, et la caméra qui tourne autour. On arrive vraiment à avoir le même effet, aussi fluide que dans Matrix?
Oui, c'est vraiment bluffant, mais ça dépend quand même du nombre de caméras, de téléphones qui filment autour. Si on a que deux, on sera un peu plus limité dans les angles de vue qui pourront être calculés. Mais s'il y a suffisamment de téléphones autour, eh bien la scène pourra être visualisée, mais vraiment visualisée de n'importe où, même là où il n'y avait pas de caméra. Pour vous dire, il y a même une option qui supprime automatiquement quelqu'un de la vidéo. Il suffit juste qu'il y ait une caméra qui ait filmé ce qui était derrière. Ce sont des techniques qu'on voyait jusqu'ici qu'au cinéma, avec du matériel extrêmement cher, mais en utilisant de l'intelligence artificielle, on peut désormais le faire sur un téléphone portable qui est tenu à la main.
Et c'est disponible ?
Alors, ça s'appelle, oui, c'est disponible, ça s'appelle Open 4D, et ça a été développé par des scientifiques de l'université Carnegie Mellon. C'est encore un petit peu brut, donc je vous conseille plutôt d'attendre que ce soit intégré dans les logiciels de montage, ça sera beaucoup plus facile à utiliser.
Merci beaucoup, Anissa Mbida, et ces heures et ces kilomètres de photos qu'on a, de photos de vacances, on va pouvoir réaliser de jolis effets grâce à vous. Anissa Mbida, l'innovation, tous les matins sur Europe 1, 7h20.
Europe 1. L'édito sport dans un instant avec Antoine Griezmann, très mal embarqué au Barça, et ce n'est pas bon du tout pour l'équipe de France, nous dira Virginie Fulpin.
Le monde bouge, Axel de Tarlet dans un instant également, à tout de suite.
Il est 7h22, vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1.
Le monde bouge, Axel de Tarlet. Bonjour Axel.
Bonjour Mathieu.
Reprendre le contrôle de nos données bancaires. Les banques européennes lancent un système de paiement européen. Objectif ? Ne plus passer par l'américain Visa.
Oui, parce que c'est assez incroyable, mais quand vous êtes en Espagne, en Italie, en Allemagne, quand vous êtes donc au cœur de la zone euro,
Si vous voulez payer avec votre carte bleue dans un restaurant, par exemple, eh bien l'organisme qui va assurer le paiement, donc qui va assurer la tuyauterie entre votre banque et celle de ce restaurant, eh bien cet organisme est forcément américain. C'est au choix Visa ou Mastercard. Plus grave, sur toutes les plateformes américaines, la type Uber, au moment de payer, là aussi encore, à nouveau, vous n'avez pas le choix, Visa ou Mastercard. Donc vous voyez, les Américains sont en train de faire main basse sur tous les paiements en Europe. Alors c'est doublement embêtant. D'abord, vous savez maintenant que les Américains, surtout avec Donald Trump, n'hésitent plus à utiliser leur position de force pour se livrer à du chantage. Et puis deuxième chose, à l'heure des data, des données comme on dit, eh bien la tuyauterie bancaire est un excellent observatoire pour voir ce qui se passe. Dit autrement, Visa connaît beaucoup de choses sur les habitudes de consommation des Européens.
Et donc les banques européennes ont décidé de créer un Visa ou un Mastercard européen ?
Exactement, voilà. Donc 16 grandes banques européennes, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, France, Espagne, vont lancer une tuyauterie bancaire européenne indépendante. Alors qui ne s'appellera pas Visa, mais qui va s'appeler, retenez ce nom, EPI. EPI pour European Payment Initiative, donc en français, initiative européenne de paiement. Alors quitte à créer quelque chose de nouveau, autant que ce soit mieux. Donc on nous promet un système de paiement européen instantané et où on aura, pour se faire des virements entre Européens, on pourra le faire avec un simple numéro de téléphone. Vous voyez, plus besoin du RIB ou du redoutable code IBAN avec ses 23 caractères. Bah écoutez, c'est réjouissant de voir que les Européens sont capables de s'entendre, d'avancer ensemble, avec à la clé plus de simplicité et plus de souveraineté, puisqu'avec cette EPI, on va faciliter le paiement entre Européens et reprendre le contrôle de nos données bancaires.
Merci Axel de Tarlé. Le monde bouge et vous le racontez le matin sur Europe 1, il est 7h24.
L'édito sport, c'est Virginie Fulpin sur Europe 1.
Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
L'édito sport est ce matin Antoine Griezmann qui vit des moments difficiles au FC Barcelone. Il est mis sur la touche. Pour vous, Virginie, ça commence à être inquiétant pour lui et pour l'équipe de France. Et il doit montrer son caractère.
Bah finalement, je suis assez contente que l'Euro n'ait pas lieu en ce moment. Une équipe de France avec un Antoine Griezmann en pleine forme n'est pas exactement la même que des Bleus avec un Antoine Griezmann fantomatique. Et si la compétition avait eu lieu maintenant, on aurait plutôt eu droit à l'ombre du joueur qu'on connaît. L'attaquant français n'est rien de plus qu'un remplaçant au FC Barcelone, un sireur de banc. Ça fait mal de le dire, vu qu'il est aussi le seul champion du monde de cette équipe et que les Catalans ont dépensé 120 millions d'euros pour le faire venir l'été dernier. Au départ, lors des premiers mois, on s'est dit qu'il fallait qu'il s'acclimate à son nouveau club, qu'il trouve des affinités sur le terrain avec ses coéquipiers. Mais en fait, le temps ne change rien à l'affaire. Enfin si, c'est de pire en pire. Antoine Griezmann a commencé sur le banc 3 des 4 derniers matchs du Barça. Son entraîneur l'a même fait rentrer quand même à 3 minutes de la fin contre son ancien club, l'Atlético de Madrid, cette semaine. Donc ça fait plus penser à la façon dont on traite un jeune tout juste sorti du centre de formation qu'un champion du monde. Honnêtement, on n'a jamais vu un joueur de son rang traité comme ça. Si le FC Barcelone jouait des partitions parfaites sans lui, on comprendrait. Mais vu la pauvreté de ce que cette équipe monte sur le terrain, on se pose forcément quelques questions.
C'est Lionel Messi le problème ?
Il en fait partie, ça c'est sûr. Depuis l'arrivée d'Antoine Griezmann à Barcelone, on en fait des tonnes sur ses relations inexistantes avec Lionel Messi, le joueur qui fait la pluie et le beau temps aussi bien dans le vestiaire que sur le terrain. Alors c'est vrai que l'entente des deux hommes dans le jeu n'est pas flagrante. De là à en faire des ennemis jurés, il faut peut-être se calmer un peu. Mais c'est compliqué de s'attirer les faveurs de Messi, un sextuple Ballon d'Or qui n'aime pas qu'on marche sur ses plates-bandes. Antoine Griezmann a voulu la jouer profil bas, lui, jusqu'à maintenant. Bon, visiblement ça ne marche pas, il va donc devoir changer de tactique et montrer sa force de caractère. De toute façon, Griezmann n'a pas envie de quitter le FC Barcelone dès cet été, et tant mieux, parce que ce serait s'avouer vaincu un peu tôt pour un joueur de sa trempe. Et de toute façon, avec la crise, il y a assez peu de clubs qui peuvent se l'offrir. Donc autant persévérer, montrer son tempérament, enfin, et s'affirmer face à Messi. Non, il n'est pas le seul patron, il serait le temps de lui dire. Ce serait bon pour Griezmann, pour le Barça et pour les Bleus. En fait, c'est même pas que ce serait bon, c'est surtout qu'il n'a pas le choix. Parce qu'une autre saison comme ça avant l'Euro, ce serait moyennement rassurant.
Virginie Fulpin, l'édito sport, et le cas Antoine Griezmann qui doit montrer son caractère. Merci Virginie, il est 7h27.
Europe 1. Jérôme Lacroix pour le journal à 7h30. Laurent Cabrol à suivre avec la météo. Europe
1. 7h29 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et avec une journée, disons, coussi-coussa, c'est-à-dire plutôt portée vers le soleil que vers les nuages. Mais enfin, les nuages seront toujours présents à peu près sur l'ensemble des régions de France. Sur Paris notamment, puisque vous êtes très nombreux sur Paris, eh bien disons qu'il vaut mieux ce matin que cet après-midi. Cet après-midi, il y aura un peu plus de nuages que ce matin. Voilà, c'est juste pour une petite indication. Mais sur l'ensemble de la France, il n'y a pas que les Parisiens, c'est exactement la même chose. Au fil des heures, avec la montée baisser des températures, les nuages sont un peu plus nombreux. Mais il n'y aura pas de pluie aujourd'hui sur le territoire français. Les pluies seront là demain sur la moitié nord et après-demain sur les côtes de la Manche. Mais ensuite, sur les régions de la moitié sud, nous allons vers un soleil ardent à la fois demain et toute la semaine prochaine. Je vous l'ai dit, toute la semaine prochaine sera belle pour tout le monde. Hein. En ce qui concerne maintenant les températures maximales d'aujourd'hui, entre 20 et 25 sur la moitié nord, 25 à Paris. Sur la moitié sud, on commence à 25 aussi, avec 25 à Lyon. Et nous allons jusqu'à Arles, Orange et la plaine de la Croix, 30 degrés. La plaine de la Croix, c'est une plaine assez spéciale où le foin est particulièrement bon. Les agriculteurs la connaissent, c'est un foin qui a une appellation contrôlée. C'est le seul en France.
Bah, on apprend quelque chose au passage. Vous n'en mangez pas, vous, du foin, non? Laurent Cabrol, merci beaucoup.
Les bêtes en mangent, oui.
Laurent Cabrol, merci beaucoup. Vous êtes sur Europe 1. Jérôme Lacroix nous a rejoint. Bonjour, Jérôme.
Bonjour, Mathieu. Bonjour à tous.
7h30, un nouveau journal.
Les congés parentaux dans notre pays, c'est 3 ans. C'est mal rémunéré. C'est quasi exclusivement pris par des femmes. C'est de façon subie.
Congé de naissance en France peut mieux faire. En tout cas, selon une large majorité de jeunes parents, ils souhaitent une refonte des congés maternité, paternité et parentaux, selon une grande consultation. La rentrée sera difficile. Il faut s'y préparer. Les mots d'Emmanuel Macron ce matin dans la presse régionale. Et puis, loin de la carte postale, l'île poubelle. Reportage exceptionnel aux Maldives dans ce journal où la gestion des déchets, notamment plastiques, est un fléau.
Les annonces d'Emmanuel Macron donc, et après ce journal, la réforme des retraites n'est pas enterrée. 7h40. Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière. À 8h10, Périscope, le rendez-vous culture de la matinale avec Jean-Philippe Ballas qui nous emmène à la rencontre de Grégory Porter. 7h55, Emmanuel Macron s'est-il piégé lui-même en choisissant Édouard Philippe? La réponse avec l'opinion de Nicolas Bétou, juste avant 8h. Très bon réveil à toutes et à tous, il est 7h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Faut-il allonger la durée des congés de naissance en France? C'est l'une des questions posées à la commission des 1000 jours installée en septembre par Emmanuel Macron, un groupe d'experts qui cherche à améliorer la vie des nouveau-nés lors de leurs 1000 premiers jours du 4e mois de grossesse aux 2 ans de l'enfant.
Et pour aiguiller les travaux de cette commission, le gouvernement a lancé une grande consultation auprès de plus de 10 000 jeunes parents. Les résultats dévoilés hier sont sans appel. Ils souhaitent à une écrasante majorité l'allongement de la durée des congés de naissance. Marion Calais.
Plus de places en crèche, un meilleur accompagnement par les professionnels de santé, mais surtout une refonte des congés de naissance, congés parental, congés paternité ou maternité. Pour plus de 80% des parents ayant répondu à cette enquête, il faut les repenser en termes de rémunération et de durée. Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge du dossier, en est bien conscient.
Les congés parentaux dans notre pays, c'est 3 ans, c'est mal rémunéré. C'est quasi exclusivement pris par des femmes, c'est de façon subie.
Laisser du temps aux parents, c'est aussi ce que demande la psychothérapeute Isabelle Filiosa, l'une des expertes de la commission des 1000 premiers jours.
Pour l'instant, les congés, ils s'arrêtent au moment où le bébé devient délicieux. Eh bien non, c'est très important que les parents puissent avoir du temps heureux avec les enfants et pas seulement le boulot difficile.
Des congés rallongés qui toutefois ont un coût, 20 à 25 millions d'euros par journée supplémentaire selon le ministère des Solidarités.
Mais cette commission des 1000 jours doit rendre ses travaux au président début septembre. Remaniement imminent, confirmation ce matin d'Emmanuel Macron dans un entretien à plusieurs titres de la presse régionale sans donner d'indication sur le maintien ou non d'Édouard Philippe à Matignon.
Entretien dans lequel le président de la République demande la réouverture des négociations sur le volet financier de la réforme des retraites dès l'été prochain. Il se dit favorable à l'allongement de la durée de cotisation, ça c'est nouveau. Il dit que tout est ouvert à la discussion, y compris sur l'âge pivot à 64 ans.
Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
Réforme des retraites, mais aussi crise économique à venir. Hein. Il l'évoque dans cet entretien. Entretien qui trace le début d'un nouveau chemin à 2 ans du scrutin présidentiel. Nouveau chemin, mais aussi nouveau ton, c'est ce qui vous a frappé.
Et oui, on est loin de l'incantation un brin lyrique du président lorsqu'il avait annoncé le déconfinement pour le 11 mai. Nous retrouverons les jours heureux, avait-il dit. Là, ce n'est plus du tout la même musique. La rentrée sera dure, il y aura des plans sociaux, affirme le président, qui troque son pessimisme actif pour son optimisme actif pour un pessimisme lucide. On dirait presque du Édouard Philippe, lorsqu'il avait donc un risque d'effondrement de l'économie, hein, souvenez-vous, il en avait parlé comme ça, le chef du gouvernement. Eh bien, le chef de l'État, lui, avait méchamment mouché son chef du gouvernement en disant « je n'aurai pas ces grands mots », préférant ainsi insister sur les effets bénéfiques du déconfinement pour l'économie. Désormais, le président admet publiquement la gravité de la situation économique du pays, un discours de vérité qui a profité clairement au chef du gouvernement durant le confinement. Donc Emmanuel Macron s'inspire de son Premier ministre pour le maintenir ou pour le sortir ? Réponse dans quelques jours.
Michael Darmon, le fait politique, tous les jours dans la matinale d'Europe 1.
Autre priorité d'Emmanuel Macron, outre le rebond économique, le Ségur de la santé pour améliorer la situation des soignants et médecins, notamment des hausses de rémunération.
Cette grande consultation devrait s'achever aujourd'hui, mais les sommes proposées par le gouvernement sont insuffisantes, estiment les syndicats.
Les discussions vont donc se poursuivre ces prochains jours. 7 milliards d'euros pour les augmentations de salaire des personnels paramédicaux et des médecins, c'est ce qui est mis sur la table pour l'heure. Pas assez, tonne Patrick Bourdillon de la CGT Santé. Il est présent à la table des négociations.
Si M. Véran arrive avec un chiffre qui est nettement insuffisant par rapport à ce qui a été posé sur la table, il est bien évident qu'il ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un accord immédiat. C'est pas possible. 6 milliards, en tout cas, ça ne correspond pas à la revalorisation salariale que nous attendons pour les professionnels. Et les 300 euros par mois net que nous, organisations syndicales, réclamons. Je pense que nous avons un gouvernement qui est capable de mettre des milliards dans certaines parties de l'industrie. Je pense notamment dans l'aéronautique ou dans l'automobile, parce qu'à un moment, il faut sauver ces secteurs et c'est louable. Mais on peut pas derrière dire on met 15 milliards dans l'aéronautique et on met 6 milliards sur l'hôpital. Et dire que c'est quelque chose qui est extrêmement fort et qui n'a jamais été fait depuis longtemps. Oui, 6 fois plus que rien, ça fait pas grand chose. Nous avons peur que la montagne accouche une souris.
Patrick Bourdillon, secrétaire fédéral de la CGT Santé, joint pour Europe 1 par Romain Oquet.
Plus de 53 000 nouvelles contaminations en seulement 24 heures. C'est du jamais vu. Et c'est aux États-Unis où l'épidémie est plus que jamais galopante.
Inquiétude des autorités pour ces prochains jours parce que ces week-ends de fête nationale, propres aux déplacements et retrouvailles en famille, Donald Trump a prévu d'assister à un feu d'artifice au Mont Rushmore.
Europe 1, il est 7h36.
Les vacances d'été, c'est ce soir pour certains d'entre nous et vous rêvez peut-être d'une mer turquoise, de sable blanc.
Paysage souvent associé aux Maldives, au cœur de l'océan Indien. Alors c'est vrai, par endroits sur les cartes postales, mais les Maldives, c'est aussi Tilafushi, l'île poubelle. L'une des nombreuses îles qui composent l'archipel est maldivien et entasse des montagnes de déchets. Et cela montre à quel point la gestion du recyclage du plastique, tout particulièrement, est un problème.
Europe 1 a pu se rendre sur cette île. Pollution au quotidien pour les habitants et inaction des autorités. Écoutez, reportage singulier signé Guillaume Bier.
C'est une immense montagne où s'entassent les déchets qui brûlent, avec de la fumée en permanence. C'est comme ça.
Rachid est fataliste devant le point culminant des Maldives. Une montagne de détritus haute comme un immeuble de 8 étages. Une décharge à ciel ouvert grande comme 15 terrains de football. Bienvenue à Tilafushi, littéralement l'île poubelle. Chaque jour, des dizaines de gros bateaux y déversent 1500 tonnes de déchets venus des hôtels et de la capitale. Une odeur insupportable de plastique qui se consume au soleil. Une fumée nauséabonde dans laquelle vit Tohil.
C'est difficile pour nous de respirer ça. Ça abîme nos moteurs de scooter aussi. De toute façon, moi, je mets un masque quand je passe près d'ici.
Le recyclage est quasi inexistant aux Maldives, où les bouteilles d'eau sont partout, celles du robinet n'est pas potable. Pour Sarah, une expatriée, la pollution plastique est un vrai fléau.
On sort de chez soi pour essayer d'aller se baigner. On constate immédiatement qu'il y a un nombre de déchets invraisemblable sur la plage. Donc, il suffit de se baisser, de ramasser un sachet plastique. Et en 5 minutes, vous avez un sac poubelle plein. Par exemple, vous partez en bateau et les déchets qui ont été accumulés pendant la journée, pendant un pique-nique, par exemple, sont rejetés dans l'eau. C'est incompréhensible.
Le paradoxe d'une population qui pollue elle-même son propre paradis. Les mentalités changent très lentement, sous l'impulsion de quelques ONG qui sensibilisent les enfants dans les écoles. Aux Maldives, Guillaume Biet, Europe 1.
Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans sac plastique. Nous les utilisons 20 minutes en moyenne, mais jetés dans la nature, ils mettent entre 1 et 4 siècles à se désagréger.
On les utilise 20 minutes en moyenne seulement, ouais. On les entasse et puis ensuite ils se dispersent dans la nature. Merci Jérôme Lacroix, c'était le journal de 7h30, vous êtes sur Europe 1, il est 7h38.
Europe 1, la matinale d'Europe 1 avec votre invité dans un instant, Mathieu Béliard.
Nous revenons longuement ce matin sur l'interview d'Emmanuel Macron dans la presse régionale. 8h15, Christian Jacob, le patron des Républicains au micro de Sonia Mabrouk. Mais tout de suite, effectivement, le secrétaire général de Force Ouvrier Yves Verrier sur Europe 1, tout de suite.
Europe 1, il est 7h40, les acteurs de l'actualité en direct. Votre invité, Mathieu Béliard, est le secrétaire général de Force Ouvrière, Yves Verrier.
Bonjour Yves Verrier.
Bonjour.
Vous avez été surpris hier soir ?
Surpris, en colère, oui, surtout.
La réforme des retraites se fera ?
Ben non, on va tout faire pour qu'elle ne se fasse pas. Moi, je vais m'adresser tout de suite à mes homologues des quatre autres confédérations syndicales. Très récemment, on était ensemble, d'ailleurs, y compris avec les organisations patronales, à dire très clairement, quels que soient les considérants des uns et des autres, que ce n'était vraiment pas le moment de remettre ce dossier sur la table, à l'actualité. On est confronté à une crise sanitaire qui n'est pas derrière nous. Le président de la République, d'ailleurs, le rappelle même dans son interview. On est confronté à une crise sociale majeure. Moi, mes camarades dans toutes les entreprises, dans l'aéronautique en ce moment en particulier, dans l'aérien, dans l'automobile, se bagarrent pour éviter les départs contraints. Et tout ce que le gouvernement, le président de la République nous dit, eh ben on va remettre sur la table, travailler plus longtemps, une réforme des retraites.
Alors,
qui sera
c'est à quoi vous oppose le président de la République hein, dans son interview dans la presse régionale, que cette réforme des retraites, ce système par points universel, il aurait bénéficié en premier lieu aux caissières, aux livreurs, à ceux qu'on a appelés la deuxième ligne dans la crise du Covid.
Ben, vous savez, ça fait plusieurs fois. Déjà, la première ligne, c'est laborieux. Hein. Le président de la République nous parle de quelques centaines d'euros. Pour le moment, ils ne sont pas là sur la table, hein, premièrement. Deuxièmement, la deuxième ligne, on attendait, et moi, ça fait plusieurs fois, je l'ai encore dit au président de la République l'autre jour, quand il nous a reçus, qu'on attendait des réponses à la hauteur pour les caissières, les livreurs, les services à domicile.
Les réponses à la hauteur, c'est les salaires ?
Ben, une revalorisation conséquente des salaires, une reconsidération générale de ce type d'emploi, qui sont des emplois au SMIC, précaires, souvent à temps partiel. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de leur dire ? La réponse, c'est dans 43 ans, vous aurez peut-être un minimum de pension à 85% du SMIC.
Mais c'est pas acceptable. Vous... Alors, je vais me faire l'avocat du président, un instant. Vous préférez la durée de cotisation, l'allongement de la durée de cotisation ou l'âge pivot, l'âge d'équilibre ?
Je dis très clairement que je vais demander à ce que les 5 confédérations syndicales, et je suppose que les organisations patronales qui tenaient le même discours, disions très vite au président de la République, c'est non, on ne remet pas en ce moment ce dossier sur le tapis. On est sous le coup du 49-3. Déjà, on avait dénoncé l'opération, on était en plein début de la crise sanitaire, et c'est à ce moment-là que le gouvernement décide d'utiliser le 49-3 pour essayer de faire passer, dans ce moment, sa réforme le plus rapidement possible. Et là, à nouveau, alors qu'on est dans une crise majeure sur le plan sanitaire et social, le président de la République nous dit, en plein été, on va remettre sur le tapis le dossier des retraites. On a passé 2 ans et demi de concertation. Il n'a pas réussi ni à expliquer, ni a fortiori à convaincre. Et on risque aujourd'hui de réouvrir de la tension à un conflit social. On n'en a pas besoin en ce moment sur ce dossier-là.
Vous faites bien de me parler du 49-3. Qu'est-ce qu'il dit, le président de la République ? Il dit le cap est bon, je le maintiens, en gros, le cap de 2017. Mais je veux bien qu'on revoie la méthode. Là, il est en train de vous dire le 49-3, tout ce qui s'est passé ces derniers mois, les grèves aussi, on oublie. On se remet autour de la table et cet été, on trouve une réforme des retraites qui permette de tenir l'engagement présidentiel.
Non mais écoutez, on oublie quoi ? Sur l'âge pivot, il dit « ça reste ». Sur la durée de cotisation, il dit « ça reste ». Le travailler plus longtemps,
il est pas aussi
ça
clair
reste.
Que ça, Yves Verrier.
Et il nous redit que sa réforme, ce qu'il dit lui, ce qui est faux, j'ai passé mon temps à le démontrer pendant 6 mois sur tous les plateaux, radio, télé, journaux, qu'elle serait profitable aux travailleurs précaires, c'est faux.
Alors,
donc son système, il est en l'état, c'est ce que je comprends. Et moi, je dis à tous les 5 confédérations, il faut qu'on lui dise non.
Alors, deux éléments sur la réforme des retraites avant de passer à autre chose, parce qu'il y a beaucoup d'actualités sociales, évidemment. Simplement, Force ouvrière ne sera pas autour de la table cet été ?
Ben, je ne sais pas de quelle table.
Il y a des négociations qui doivent se lancer cet été.
La question est posée et ça reste une question à ce stade.
Ça reste une question à ce stade. Et les autres organisations syndicales, le patronat, ce que vous essayez de me dire ce matin, personne n'en veut ?
À 8, on a dit que ce n'est pas le moment de remettre ce dossier sur le tapis. Que le président de la République nous disent que lui, il est convaincu que c'était une bonne idée, puisque c'était son idée, je peux le comprendre, mais le moment n'est pas celui-là. Donc, on met ça de côté, je l'ai dit maintes et maintes fois, et a fortiori, aujourd'hui, on a eu la crise sanitaire, on n'en est pas sorti, on a une crise économique, une crise sociale majeure devant nous, il faut tout faire pour empêcher, parce que j'ai entendu le discours aussi, il y aura des plans de licenciement. Moi, j'aimerais que le président de la République nous dise, on va tout faire pour empêcher les licenciements, bah alors, et non pas nous dire, il va y avoir des plans de licenciement.
Alors, ce qu'il dit, c'est... C'est au présent, c'est pas on va tout faire. Il dit il y a des plans sociaux et il y en aura et il explique que les méthodes du gouvernement, les choix du gouvernement ont permis de réduire par exemple le plan social chez Airbus, ça aurait pu être pire, Yves Verrier.
Mes camarades considèrent qu'aujourd'hui il y a à l'évidence de l'effet d'aubaine. On parie sur le fait, Airbus c'est un des fleurons de l'industrie en France. On ne cesse de parler, de préserver, de relocaliser de l'industrie. Jusqu'alors, c'était une industrie en pleine expansion. Si on passe la crise sanitaire, si on vient à bout du Covid par un vaccin, par un traitement, que c'est derrière nous, il n'y a aucune raison que ça ne reparte pas.
Tous les experts vous disent, Yves Verrier, il n'y a aucune raison de revoir
un secteur. Les compétences.
Non, mais préserver les emplois, c'est bien l'enjeu essentiel, en l'occurrence, dans ces secteurs-là. Mais tous les experts vous le disent, le secteur aérien ne va pas repartir avant 2022-2023. Qui va acheter un avion Airbus ?
Mais dans le moment présent, il faut préserver les emplois, préserver les compétences, parier sur la reprise. Tous les syndicats aujourd'hui se bagarrent pour éviter des départs contraints, mais à l'arrivée, ça fera quand même des départs, même s'ils ne sont pas contraints, sans compter les milliers d'intérimaires qui sont sur le carreau aujourd'hui, parce que on n'en parle pas, mais ça, c'est une réalité. Et derrière, la chaîne de sous-traitance. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. On parle des suppressions d'emplois à Airbus, les 5000, 3500, on va voir ce que ça va devenir au final, mais derrière, il y a toute la chaîne de sous-traitance.
Bien sûr, on les a reçus, les sous-traitants, ici. Donc, il y a de quoi être
inquiet. Et c'est en ce moment qu'on nous dit on va remettre le dossier de la retraite parce qu'il va falloir travailler plus longtemps, mais déjà ce qu'il faudrait c'est assurer à tout le monde un travail, aux jeunes en particulier. Aux jeunes, on est en train de leur dire ça va être difficile, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez rentrer en apprentissage, en contrat de professionnalisation, ok, sauf que demain la contrepartie c'est vous travaillerez plus longtemps pour pouvoir avoir une retraite.
La rentrée sera dure, des plans sociaux il y en a et il y en aura. Pour vous, le président de la République ou l'exécutif, pour ne pas personnaliser la question, pour vous, on est en train d'acter ces plans sociaux trop facilement ?
Mais je trouve qu'il y a une forme de...
Vous parliez d'effet d'aubaine. Vous parliez d'effet d'aubaine.
Oui, il y a des effets d'aubaine, on le sait. À l'évidence, tous les plans qui tombent en ce moment, ça n'est pas tant la crise, c'est utiliser la crise pour faire passer des restructurations qui étaient dans les tuyaux. Et y compris Airbus, mes camarades ont le sentiment que l'entreprise, au-delà de la crise sanitaire et de son impact immédiat sur les chaînes de production, puisque effectivement, on ne produit pas d'avions en ce moment, ont le sentiment qu'il y a en réalité une restructuration d'ensemble qui vise à faire de l'économie sur les emplois.
Yves Verrier, le Ségur de la santé, il devait s'achever aujourd'hui, il va continuer, parce qu'on n'est pas d'accord. Les syndicats disent qu'il n'y a pas assez d'argent sur la table. On en est à 7 milliards d'euros. C'est combien assez d'argent, Yves Verrier ?
Assez d'argent, la revendication c'est pour tous, soignants, non-soignants. Les syndicats ont posé une revendication de l'ordre de 300 euros qui correspond à pas tout à fait l'alignement d'ailleurs pour les soignants sur ce qui se pratique ailleurs en Europe, mais qui permettent de redonner confiance aux salariés, rendre attractifs les professions dont on a besoin. Moi, j'entends le président de la République nous parler dans l'interview de quelques centaines d'euros. On n'y est pas encore dans la négociation sur les quelques centaines d'euros. Donc, la négociation va continuer. J'espère qu'on va finir par l'entendre. C'est laborieux du côté du gouvernement.
Mais justement, on est à 7 milliards d'euros aujourd'hui. Il faudrait aboutir à combien ? Je sais que ça paraît un peu caricatural comme ça, mais en faisant l'addition, il faudrait aboutir à combien pour que ce Ségur soit satisfaisant à vos yeux ?
Tout dépend de ce qu'on met dans le périmètre des 6, 7, 8, 9 milliards. Tout dépend si on parle de l'hôpital ou si on y intègre le secteur privé, l'ensemble des EHPAD, parce qu'il ne faut pas les oublier. Donc, tout va dépendre de la façon dont c'est négocié, dont l'enveloppe dans son ensemble sera organisée et répartie. Si c'est, comme aujourd'hui, 6 milliards pour tout le monde, ça ne le fait pas. On est à quelques dizaines d'euros, une centaine d'euros maximum. Et donc ça ne le fait pas. Est-ce que je trouve absolument pas correct, y compris dans l'interview du président de la République, c'est qu'il semble associer la revalorisation à une forme d'intéressement. Là où les personnels des hôpitaux, de la santé en général, se sont donnés sans compter pendant la crise sanitaire, y compris au risque même de leur propre santé. Je ne trouve pas ça correct que de leur dire aujourd'hui, ce sera associé à une forme d'intéressement.
Yves Verrier, merci beaucoup. Secrétaire général de Force Ouvrière ce matin en direct sur Europe 1 à 8h15. Christian Jacob sera l'invité de Sonia Mabrouk, le patron des Républicains. Nous reviendrons là aussi sur cette interview du président de la République dans la presse régionale. 7h49.
Europe 1. Le nouvel album du géant Grégory Porter sortira fin août et il sera avec Jean-Philippe Ballas dans Periscope dans un instant. 7h51, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Et c'est l'heure de Periscope, votre rendez-vous culture dans la matinale d'Europe 1 avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et ce sera l'un des événements de l'été, le retour d'un très grand.
Unreroute the rivers, let the damned water beep. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free.
C'est la voix de Grégory Porter avec un nouvel album. Vous l'avez rencontré, Jean-Philippe.
Oui, et qu'est-ce que je l'aime, ce colosse noir américain, toujours chic, élégant, rayonnant, devenu à 48 ans l'une des voix les plus respectées au monde. C'est l'histoire d'une force tranquille, un timbre qui vous donne le frisson. Je vous laisse avec monsieur Grégory Porter.
Hello, Mr. Holland. And Rosie may come out and play, she's a good girl now. Won't be no trouble, no how.
Grégory Porter, d'où vous vient ce sourire que vous avez là accroché en permanence?
Ce sourire vient de tous ces voyages sur les scènes du monde entier, raconter la vie et surtout l'amour.
Il m'a fallu du temps, vous savez, au moins 20 ans à jouer dans des clubs, des petits restaurants. Aujourd'hui, je me sens le chanteur le plus chanceux au monde. Love is just like a phoenix. Let it sky, let it grow. This is just a thing that, oh, I've been dreaming of. The promises you know. Promise you.
Votre histoire à vous, elle a commencé avec le gospel, c'est ça?
Oui, oui, je viens du gospel, ce sont mes fondations. Enfant, j'étais très timide. Il a fallu ma mère, mes frères et sœurs pour me pousser sur scène. Je devais avoir 6-7 ans quand j'ai pris mon premier solo à l'église. Le besoin de sortir cette musique de moi est devenu plus fort que la peur. But you lift me high.
Un jour, ma mère m'a donné ce conseil. Il faut toujours comprendre ce que tu chantes. Croire en ce que tu chantes. Je me vois comme un chanteur de jazz qui utilise le gospel, la soul, le blues, la nuance. C'est comme ça qu'on raconte une histoire. If love is overrated,
let me be the one that is naive. Grégory Porter, qu'est-ce que vous pourriez chanter là, maintenant, aux auditeurs d'Europe 1 qui commencent leur journée?
Quand je veux réveiller ma famille, je me promène dans la maison. Imaginez un dimanche matin quand on se lève un peu plus tard. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. You know, I'm lucky. J'ai de la chance.
They wake up in a good mood.
S'ils se réveillent de bonne humeur, alors ce sera une très très bonne journée.
You're gonna have a good day.
Thank you so much.
My pleasure. Thank you.
Thank you for making a place for me. Opening my eyes and now I see. Thank you.
Grégory Porter, son nouvel album All Rise, attendu cet été, c'était Periscope. Oui, regarde Omblin. Ça, c'est de la jalousie. Ça, c'est de la... Parce que Jean-Philippe Ballas a rencontré Grégory Porter. Et comme vous le disiez si bien, thank you, Jean-Philippe Ballas.
You're welcome.
Il est 7h54.
L'opinion de Nicolas Bétou sur Europe 1.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Ça y est, on est entré de plein pied dans la phase de remaniement.
Oui, avec une séquence assez intense politiquement, fin des consultations de tout ce qui compte comme corps constitué, avec les derniers en date, les présidents des trois assemblées, et puis une interview à la presse quotidienne régionale, ce qui permet de savoir à grands traits ce que sera le carnet de route des deux dernières années du quinquennat. Le remaniement peut donc avoir lieu dans les prochains jours, probablement suivi d'une intervention du chef de l'État à la télévision. On le voit, tout cela est très construit et promet d'être assez puissant. Vous savez ce que dit Grégory Porter dans ces cas-là? Get ready for the wave. Préparez-vous à la vague.
Là, je suis bluffé. Je surfe sur votre image, celle de Grégory Porter. Ce sera une vague ou une vaguelette?
Vous voulez dire avec changement du Premier ministre ou non?
C'est un peu ma question. Oui. C'est la question que tout le monde se pose, non?
Effectivement, oui. Et comme personne n'a la réponse, tout le monde, depuis la publication de l'interview, cherche à interpréter les propos du chef de l'État, par exemple sur la réforme des retraites. Pile, il relance la réforme, Édouard Philippe reste. Face, il botte en touche sur l'âge pivot, Édouard Philippe, qui y tient, s'en va. Bon, la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron s'est mis tout seul dans une position telle qu'aucun des deux scénarios n'est en sa faveur. Hypothèse numéro 1, il remplace Édouard Philippe, c'est son souhait, il veut gouverner reine courte, comme disent les cavaliers. Bon, je passe sur le risque qu'il aurait à se priver d'un Premier ministre, très apprécié de l'aile droite, de la Macronie et d'une partie de son électorat, de la droite républicaine. L'argument est connu. Mais il y a plus embêtant encore. La cote d'Édouard Philippe n'en finit pas de monter. Et plus l'écart avec celle du président se creuse, plus il sera difficile d'assumer politiquement de rompre cette dynamique. Sauf bien sûr si c'était pour conduire un programme radicalement différent. Mais ça n'en prend pas le chemin. Comme dirait Grégory Porter, « Even knows that I can't shake it, Dieu sait que je ne peux pas m'en défaire.
» Alors passons à l'hypothèse 2. Emmanuel Macron confirme Édouard Philippe à Matignon. En quoi est-ce que ce serait un inconvénient pour le chef de l'État ?
Eh bien parce qu'il a lui-même installé le scénario inverse, lequel à force de circuler pendant des semaines est devenu une réalité. Il est devenu un sujet d'affrontement à peine feutré entre ceux qui, dans la majorité En Marche, aimeraient que le Premier ministre parte, et puis ceux qui le défendent, parce que la gauche de la Macronie en rêve, parce que dans l'entourage même des deux têtes de l'exécutif, les esprits se sont échauffés. Voilà, le sujet est là. Il a été mis au milieu de la table entre un Emmanuel Macron qui aimerait changer de chef du gouvernement mais n'a pas les moyens de son ambition et un Édouard Philippe qui apparaîtrait alors comme le vainqueur de cette séquence. Allez, une petite dernière citation de notre référent du jour, Gregory Porter. Watch what happens when the people catch wind. Voilà ce qui se passe quand les gens ont le vent en poupe.
Clap your hands now. Merci Nicolas Bétou. Incroyable, on a fusionné Periscope et l'opinion de Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion ce matin, votre édito tous les matins et ce matin avec des vrais morceaux de Grégory Porter dedans. Impressionnant, Jean-Philippe.
Quand on va dire à Grégory Porter qu'il était cité par Nicolas Bétou, il va tomber de sa chaise.
Il est 7h57.
Europe 1. Le journal de 8h à suivre, la météo avec Laurent Cabrol dans un instant, tout de suite sur Europe 1.
La météo sur Europe 1 avec Laurent Cabrol.
Alors, ce qu'il faut savoir ce matin, d'abord, pour aujourd'hui, température comme on aime, entre 20 et 25 au nord et 25 à 30 au sud, donc pas excessive ces températures. Le temps d'aujourd'hui, c'est un temps d'alternance nuages éclaircies sans averse, et les nuages seront plutôt présents l'après-midi que le matin. Demain samedi, attention, comme dimanche, ce sont les régions de la Bretagne, Normandie, Picardie, Nord-Pas-de-Calais qui seront pénalisées, car il y aura pas mal d'humidité. Plus on ira vers le sud, plus il fera beau, et la semaine prochaine s'annonce idyllique pour tout le monde.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, on écoute Le Monde Changer.